Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors pour cette 32e émission sur les créatrices femmes artistes, nous allons continuer les présentations en restant en Espagne avec quelques créatrices artistes espagnoles. Si vous vous souvenez, la dernière fois, après un passage au Portugal où nous avons rencontré une poétesse nommée Flor Bella Estanca, nous avons passé la frontière à la rencontre d'une écrivaine poétesse espagnole, plus précisément galicienne, nommée Rosalía de Castro. Deux personnalités dont les âmes tourmentées ont quelque peu assombri notre voyage en contrastant avec l'impression lumineuse que nous offrent généralement ces pays du Sud. Alors figurez-vous que malgré l'opacité qui règne sur les destinées féminines et contrairement aux idées reçues sur les femmes des pays de soleil cantonnées à leur tâche d'épouse et de mère au foyer, surtout pour celles du 19e ou du 20e siècle, ces femmes s'expriment quand même et sont reconnues grâce à leur activité créative, l'écriture d'accord, mais aussi avec la peinture et la sculpture. Mais jusqu'à présent, j'ai surtout rencontré des écrivaines, à l'exemple de la comtesse Emilia Pardo Bazán, née en 1851, qui est, vous l'avez compris, une écrivaine espagnole. Or, celle-ci manifesta déjà enfant une véritable vocation, car la littérature l'attirait et elle écrivait notamment de la poésie. Or, c'était quelqu'un qui était très cultivé, hein, car en outre sa curiosité, elle reçut une sérieuse et solide éducation dans son milieu, quand même un milieu privilégié, puisqu'elle était issue d'une famille puissante où l'argent de surcroît ne manquait pas, ce qui peut aider quand même. Et de plus, la bibliothèque familiale lui offrait les moyens d'approfondir ses connaissances, d'accéder à une littérature choisie, de manière à affiner son savoir en matière de philosophie, de littérature, notamment classique, et a peut-être aussi contribué à développer un attrait pour la mystique. D'ailleurs, ses études écrites, biographies présentées sur des hommes d'église, des religieux, comme par exemple sur saint François d'Assise, ont alimenté possiblement ses réflexions et sa foi en matière de religion et de spiritualité. En même temps, il semblerait qu'elle s'intéressait aussi à d'autres courants de pensée, on va dire plus matérialistes ou profanes. Enfin bref, nous pouvons dire que Emilia Pardo Bazán se présente comme une femme cultivée, érudite, intellectuelle et aussi avec un caractère bien trempé pour s'opposer au machisme ambiant, tout en sachant que son statut social lui a sans doute permis de s'affirmer davantage. Alors bien que mariée à 16 ans avec 3 enfants, il n'en reste pas moins qu'elle s'adonnera avec passion à la littérature, aussi bien lecture qu'écriture. Et ses nombreux voyages en Europe nourriront sa curiosité, car elle s'intéressera de près aux nouveautés littéraires des autres pays qu'elle traversera. Et justement, sa rencontre avec l'écrivain français Émile Zola lui permettra de se rapprocher de ce type de littérature que l'on définit comme le roman naturaliste et qui la rendra célèbre. Alors le roman naturaliste est apparenté au réalisme, c'est-à-dire que ce type de roman se rapproche au plus près de la réalité ambiante, même la plus triviale, qu'il a décrit, même si ce n'est qu'une œuvre de fiction, et les personnages sont conformes à ceux rencontrés dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que le roman naturaliste apporterait de plus, hein? Peut-être une dimension psychologique, c'est décortiquer les mécanismes qui font qu'une personne, dans un contexte donné, sera influencée par l'environnement et c'est décrire comment il se comportera dans sa vie par rapport à tout cela. En tout cas, Émile Zola reconnaîtra l'influence d'Emilia Pardo Bazán pour introduire en Espagne le roman naturaliste. Et d'ailleurs, cette écrivaine publiera une série d'articles sur Zola dans la revue intitulée « L'Époque ». Et quant à elle, son premier roman intitulé « Pascual López » paraîtra en 1879 mais son roman naturaliste, considéré comme le plus éloquent, le plus abouti du genre, s'intitule « Los Passos de Ulloa », publié en 1886, qui aborderait l'histoire d'une famille noble avec des enfants illégitimes et des conflits entre chacun. Et un prêtre se trouve mêlé lui aussi aux intrigues, et apparemment cet ouvrage traite de la décadence de l'aristocratie, du pouvoir de l'Église dans la province de Galice. Alors, ceci dit, en dehors du roman naturaliste, cette dame sera féconde en œuvres littéraires diverses et variées, aussi bien en essais qu'en pièces de théâtre ou en poésie, et même avec des études poussées sur la littérature espagnole du XVIIIe siècle, sans compter ses activités journalistiques. En tout cas, son passage laissera des traces dans les milieux littéraires, tant par l'importance et la qualité de son travail que par son attitude et son comportement vis-à-vis de la gent masculine et surtout du machisme ambiant qui sévissait dans la société espagnole de l'époque. Apparemment, ces messieurs, notamment ses collègues, eurent du mal à avaler les prétentions égalitaires de la dame, déjà par rapport aux activités de littérateur, mais aussi parce qu'elle revendiquait une reconnaissance en tant que personne à part entière. C'était une féministe convaincue et agissante qui déjà avait commencé à dénoncer l'inégalité d'éducation entre l'homme et la femme. Et elle s'insurgera toute sa vie contre les discriminations dont elle-même fera l'objet dans le cadre de sa profession d'enseignante de lettres à l'Université de Madrid, de sa position privilégiée dans la section littérature à l'Athénée de Madrid, qui est une institution culturelle privée. Et elle fondera d'ailleurs une revue intitulée « La bibliothèque de la femme ». Mais malgré ses efforts, et en raison de son sexe et de l'opposition qu'elle suscitait, elle ne pourra jamais accéder à l'Académie. Alors c'est une figure marquante que je ne connaissais pas. Bon, je n'ai pas la prétention, malgré mon goût et ma curiosité, de connaître toute la littérature internationale, loin s'en faut. Ceci dit, vu le nombre d'écrivaines espagnoles qui s'imposent ici dans l'émission de La Voix des Arts, ne serait-ce qu'au 19e, début du 20e siècle, je mesure d'autant plus l'étendue de mon ignorance et je ne suis certainement pas la seule dans ce cas. Mais peut-être que pour être au courant des études de lettres très poussées, très ciblées sur un pays aurait été nécessaire pour les connaître, ces femmes. Bon, enfin, c'est un point d'interrogation. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. J'ai réussi à trouver une musique d'une compositrice espagnole née sensiblement à la même époque qu'Emilia Pardo Bazán. Il s'agit de Soledad Bengoetxea de Carmena, née en 1849 à Madrid, qui était pianiste mais aussi compositrice. Apparemment, sa famille était proche du milieu musical puisqu'elle possédait un music hall réputé de Madrid, si bien qu'elle y a rencontré des musiciens et compositeurs, sans doute déjà toute jeune. Alors, d'après ce que j'ai lu, elle révéla quelques dispositions innées et précoces pour la musique et a suivi un enseignement avec divers musiciens, dont un apparemment spécialisé dans la musique religieuse. Et il s'agit d'un compositeur organiste basque nommé Juan Ambrosio Arriola. Alors Soledad Bengoetxea de Carmena n'a pas vécu très longtemps, puisqu'elle est décédée à 44 ans en 1883. Néanmoins, elle a laissé un certain nombre d'œuvres, puisque déjà à 18 ans, elle aurait composé une messe à quatre voix. À part la musique sacrée, elle a aussi composé des pièces symphoniques, des œuvres pour piano, violon, chant, des zarzuelas, qui est un type de spectacle musical né en Espagne en lien avec son folklore. Mais le mieux, c'est d'écouter l'une de ses créations. Ce que j'ai trouvé, c'est un extrait de musique sacrée. Aussi, je vous propose cet extrait intitulé « O Salutaris Hostia ». Thank you. Revenons à nos écrivaines. Figurez-vous qu'en m'intéressant à Emilia Pardo-Bazan, je découvre Concepción Arenal, si cela vous dit quelque chose, qui elle est plus âgée puisqu'elle est née en 1847. Alors je ne vous étonnerai plus si je vous dis qu'elle était écrivaine, elle aussi, poète, Miguel si tu m'entends, et journaliste. Alors elle commença dans la vie à suivre des cours de droit pendant 4 ans à l'université espagnole en cachant le fait qu'elle était une femme. Elle s'habillait en homme, mais le subterfuge fut découvert et ceci dit, comme elle faisait ses preuves en réussissant les tests, elle eut l'autorisation de suivre les cours mais en restant éloignée des autres et elle n'aura jamais le droit de passer des examens et d'avoir un titre. Alors elle épousera cependant un avocat, Fernando García Garasco, écrivain lui-même, qui la comprendra et la soutiendra dans ses combats. Et ensemble, ils collaboreront et elle assistera avec lui, habillée en homme, à des réunions politiques. Enfin, c'est encore une femme qui milite pour les droits de l'homme et de la femme, qui dénonce les injustices sociales, qui s'investit beaucoup dans des activités de soutien aux pauvres, pour réhabiliter et éduquer les délinquants, où elle propose au système plutôt des actions éducatives que répressives. Elle deviendra également visiteuse de prison pour femmes, alors que jusqu'à présent, c'était les hommes qui s'acquittaient de cette fonction. Et elle écrira d'ailleurs des essais, dont un intitulé « Lettre aux criminels », qui lui causera quelques ennuis avec la loi. Ce qui ne l'empêchera pas de témoigner, de proposer des réformes, etc. Alors elle lutte aussi contre l'ignorance, aussi bien des hommes que des femmes, tente de démontrer que le machisme est préjudiciable à la société, et elle publiera en 1869 un essai intitulé « La femme du futur », où elle démonte toutes les théories masculines sur l'infériorité biologique de la femme en lien avec son infériorité intellectuelle. Alors elle aurait critiqué elle aussi les disparités de salaire, genre travail égal, salaire inégal, qui, je le rappelle, malgré les soi-disant progrès d'une modernité dont le XXIe siècle s'enorgueillit, sont toujours d'actualité, comme quoi les bonnes vieilles recettes restent toujours les meilleures, malgré une légalité présentée comme obligatoire, et pourtant cette loi est encore contournée, ignorée de nos jours dans certains secteurs. Alors malgré les oppositions dont elle fera l'objet, elle fondera des organismes éducatifs, caritatifs et mettra sa plume au service de toutes ces causes quand elle jugera bon de le faire. Et elle remportera en outre en 1860 le prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour un essai intitulé « La bienfaisance, la philanthropie et la charité ». Sauf que s'étant présentée avec un prénom masculin, elle brouilla les cartes si bien que lorsque son identité féminine fut révélée, eh bien le prix faillit lui passer sous le nez. Mais Concepción Arenal ne se laissa pas faire. Elle argumenta si bien avec ses mérites qui au bout du compte eux aussi étaient si bien justifiés qu'elle finit par avoir gain de cause. Alors je suis encore tirée en arrière, là dans le passé, avec ces Espagnols qui, quoi qu'on en dise, n'étaient pas si faciles à museler. Bon, il est vrai que je ne pouvais pas passer à côté, car au fond, elles militent pour de justes causes qui concernent la moitié de l'humanité. Et je constate encore que de nombreuses femmes espagnoles, cette fois du XIXe siècle, s'impliquaient dans la vie sociale, culturelle, politique même de leur pays. Elles militaient pour davantage de justice sociale, aussi bien pour les hommes et en même temps pour les femmes, toujours minimisées. Et certaines, grâce à leur éducation ou leur volonté personnelle, sont devenues des femmes cultivées, des érudites, qui n'hésitaient pas en plus à œuvrer concrètement dans la société, à prendre la plume pour dire ce qu'elles pensaient d'une situation économique, sociale ou politique. Alors c'est le cas de Juana de Vega, qui elle est née au tout début du XIXe siècle en 1805 en Corogne, donc c'est déjà encore au tout début du XIXe, dans une famille plutôt ouverte et éclairée. et dont l'existence témoigne de ses engagements. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, elle était amie avec Concepción Arenal, car elles œuvraient de concert, si je puis dire, pour obtenir une amélioration sociale générale. Mais celles dont je parle ne sont pas les seules, car parmi ces femmes écrivaines, contestataires et militantes, entre autres des droits des femmes, celles qui suivent n'ont rien à envier à leurs aînés. Et parmi elles figure Carmen de Burgos Isegui, née en 1867, qui était journaliste, écrivaine, traductrice et enseignante. Alors c'est quelqu'un qui se mariera aussi très jeune, à 16 ans, pour divorcer par la suite. Et après le décès de deux de ses trois enfants, hein, je crois qu'en tout elle en aura quatre, dont trois descendront. Elle vivra quand même des drames familiaux, hein, mais elle restera assez discrète hein, par rapport à cela. Alors au cours de son mariage, elle se sera quand même initiée au journalisme en participant déjà au journal dirigé par la famille de son mari et elle continuera dans cette voie. Entre-temps, elle étudiera pour devenir enseignante, ce qui ne l'empêchera pas d'écrire et de collaborer ensuite à divers journaux, même les plus en vue de l'époque, où elle finira par devenir rédactrice en chef à Madrid du Diario Universal en 1906, en se faisant connaître sous le pseudonyme de Colombine. Alors par rapport à son cursus atypique, il est dit que c'est la première fois en Espagne qu'une femme est reconnue comme journaliste professionnelle. Alors comme la plupart de ses compatriotes écrivaines, hein, ses préoccupations seront surtout sociales et politiques dans un souci d'équité et de justice. Alors d'un point de vue global, il semble qu'elle fut une travailleuse infatigable, ce qui ne l'empêchera pas de voyager, notamment en Europe, toujours pour nourrir sa curiosité et aiguiser son regard avant sa plume par ce qui se passe dans le monde. En tout cas, elle est connue pour s'être investie à fond dans ce qu'elle faisait, en ce quoi elle croyait, et ceci, toujours grâce à sa plume, mais aussi grâce à son éloquence, à son charisme auprès des divers acteurs sociopolitiques de l'époque. Or, ceci dit, elle a toujours beaucoup écrit pour les femmes et sur les femmes. Elle s'est d'ailleurs mise à dos la société bien pensante de l'époque et l'Église, bien évidemment, ce qu'elle est avec, en militant pour légaliser le divorce, puis ensuite pour que le vote soit accordé aux femmes. Et elle collabora aussi étroitement avec une autre féministe, militante républicaine, une écrivaine portugaise, auteure pour enfants, nommée Ana de Castro Osorio, qui elle est née en 1872. Et celle-ci écrira d'ailleurs le premier manifeste féministe portugais avant de fonder le groupe d'études féministes portugaises en 1907, puis en 1909, la Ligue républicaine des Mulheres portugaises. Alors pour en revenir à Carmen de Burgos Isegui, elle aurait aussi créé un cercle littéraire, artistique, où elle prenait elle aussi un renouveau dans l'art et aurait reçu dans son cénacle non seulement des écrivains, des journalistes, mais aussi des musiciens, artistes divers et variés, autant espagnols qu'étrangers. Or son œuvre, je ne peux pas en dire grand-chose finalement, car ce qui transparaît surtout de ses écrits, ce sont ses engagements sociopolitiques. Ceci dit, elle a écrit des nouvelles, des romans, des essais, a traduit aussi des livres et des articles d'auteurs étrangers. Et à ce qu'il paraît, elle se considérait comme une écrivaine libre et indépendante qui refusait d'être cataloguée ou enfermée dans un genre particulier. Et elle a écrit d'ailleurs qu'elle était libre d'écrire ce qu'elle voulait, comme ça venait, puisque je me suis appliquée, hein, tant bien que mal, à traduire en français ce que j'ai lu en espagnol. Bon, ceci dit, cette femme volontaire, indépendante, est prise de liberté et impliquée, justement en raison de ses implications politiques, après la guerre civile et la victoire du régime de Franco, elle fut mise, j'allais dire en veilleuse, hein, c'est un peu cela, même plus, puisque ses livres furent interdits et disparurent des librairies et des bibliothèques. Et elle sera par la suite plus ou moins oubliée. Et d'ailleurs, je vais me référer à ce que j'ai lu et qu'a écrit une autre femme nommée Florence Belmonte dans une publication intitulée « Femmes et démocratie », où il est question ici des Espagnols évoluant dans l'espace public. Alors, je vous le lis. L'histoire semble avoir mis une application certaine à effacer les preuves que les femmes parvenaient à donner de leur capacité à exercer le pouvoir et de la légitimité de leur revendication d'un traitement égalitaire. C'est ainsi, la transmission de l'histoire des femmes est sans cesse interrompue entre les générations, leur interdisant la construction d'une mémoire. Alors ce texte est assez explicite, d'une poussée dans l'ombre des femmes qui dérangent en revendiquant des droits à la liberté de pensée, de parole et d'action, ce qui était le cas de Carmen de Burgos-Isegui. Celle-ci décédera en 1932, elle aura bousculé pas mal de monde entre-temps, créé quelques conflits, provoqué des agitations en tout genre autour d'elle, à la fois de ses admirateurs et admiratrices qui la soutiendront par leur mise en route pour un monde plus juste et équilibré, que de la part de ses ennemis qui feront tout pour la discréditer et la forcer à se taire. Alors faire taire une Espagnole, ben bon courage, hein. Rien que d'y penser, moi je suis déjà épuisée. Alors de nos jours, qu'en est-il ? Eh bien maintenant, ben, petit à petit, Carmen de Burgos-Isegui est réhabilitée dans la société espagnole. Des rues et des écoles portent son nom. Des plaques commémoratives sont placées sur les maisons où elle est née et décédée. Et un prix de journalisme porte également son nom. Eh bien, nous allons terminer cette émission de La Voix des Arts sur cette forte personnalité. Le temps pour vous de digérer tout ce que je viens de vous apporter, qui est quand même assez conséquent sur ces créatrices combatives des droits de l'homme et de la femme. N'ayez crainte, d'autres vont suivre, encore des Espagnols, et nous verrons les émissions prochaines, ce qu'elles vont nous concocter. Nous écouterons aussi un peu de musique de nos compositrices toujours invitées pour illustrer ce thème sur les créatrices artistes. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous avec plaisir pour la suite de nos pérégrinations en terre féminine. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.